Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors rien ou presque n'échappait à la sagacité et parfois aussi à la mauvaise foi de Sacha Guitry, à qui on attribue cette sentence « Se méfier des vieux qui disent place aux jeunes, ils n'ont qu'à s'en aller s'ils aiment tant les jeunes ». Or il faut observer que ceux qui disent place aux jeunes ne leur offrent jamais que la place des autres. Dans un autre genre, pour l'auteur de « La vie devant soi » ou « La promesse de l'aube », Romain Gary, ou plutôt devrais-je dire Émile Ajar, « La jeunesse est un talent, il faut du génie pour l'avoir longtemps, enfin. Quant à Corneille dans le Cid, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Revenu à notre époque, Corneille, Sacha Guitry ou Romain Gary continueraient sans doute à être fascinés par la jeunesse, sauf qu'ils se seraient forcément adaptés en parlant de ces trentenaires, cette fameuse génération Z, qui veulent légitimement se faire une place au soleil, ou en tout cas s'insérer au mieux dans notre société. C'est donc d'identité générationnelle, de jeunesse, de génération reset, comme le dit mon invité, dont nous allons aujourd'hui parler tout au long de cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. C'est parti pour cette 62e. Larguons les amarres et voguons cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Monique Dagneau.
Bonjour.
Et bienvenue au micro de Complètement à l'Ouest. Alors pour vous présenter, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la jeunesse et du monde numérique, autrice de nombreux ouvrages parmi lesquels je cite bien volontiers Génération surdiplômée, coécrit en 2021 avec Jean-Laurent Casselli, que nous avions d'ailleurs reçu à ce même micro en 2022 pour son ouvrage La France d'en haut, coécrit avec Jérôme Fourquet. Monique Dagneau, vous venez de publier aux éditions Odile Jacob cet ouvrage qui fait beaucoup parlé, Génération Reset, ils veulent tout changer, livre très fouillé, puisqu'il est le résultat de 3 vastes enquêtes sociologiques destinées à auditionner 100 000 répondants, 700 pages de verbatim que vous avez condensées dans les 230 pages de ce livre, qui va nous servir de fil directeur pour explorer les rêves, les espoirs, les doutes de ces trentenaires urbains, souvent surdiplômés, et cela tant en France qu'en Allemagne ou aux États-Unis. Mais avant que nous plongions au cœur de cette analyse passionnante, je vous propose de suivre une tradition bien ancrée dans cette émission, consistant à écouter d'abord un court extrait sonore afin de se mettre dans l'ambiance du thème de cette émission. Et avec cet extrait, nous allons logiquement parler jeunesse. On l'écoute.
Ces choses que la Gen Z n'accepte plus au travail. Et ouais, va bien falloir s'y faire les gars. Devoir faire du présentiel tous les jours alors que tes missions te permettent de faire du télétravail. Si t'as besoin de surveiller tes employés pour être sûr qu'ils travaillent, alors le mieux c'est qu'on bosse pas ensemble. Faire des heures sup non payées. Les gars, on n'est pas bénévoles en fait. Si tu veux que je reste plus tard, alors va falloir sortir le porte-monnaie. Bosser dans une boîte dite familiale. C'est pas l'entreprise de nos darons, donc y a pas d'histoire de famille qui tienne. Et d'ailleurs, on sait très bien que ceux qui disent que leur boîte est familiale, c'est un énorme red flag. Ensuite, faire 5 ans d'études pour avoir un diplôme et qu'après derrière, on te propose de te payer au SMIC. Les gars, on n'a pas trimé pendant 5 ans à l'école pour manger des pâtes au beurre en fait, hein. Les managers toxiques. Ceux qui parlent mal, qui te donnent la boule au ventre quand tu vas au taf, qui te reprochent d'avoir été malade, ou de pas avoir répondu au téléphone pendant le week-end. En fait, c'est simple, si tu sais pas manager avec bienveillance, ne deviens pas manager.
Voilà, alors en moins d'une minute et sous une forme extrêmement caricaturale, très condensée en tout cas, presque tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez ou si vous avez des jeunes, génération Z, au travail. Dans le prolongement de ce clip que l'on trouve sur les réseaux sociaux, ma première question suite à la lecture de votre ouvrage donc Génération Reset, dans lequel il y a un chapitre entier consacré au travail, c'est le chapitre 4 qui s'intitule « Le travail dans tous ses états ». Alors on a entendu dans cet extrait que cette génération Z n'a pas fait 5 ans d'études et parfois plus pour manger des pâtes au beurre, sous-entendu pour gagner guère plus que le SMIC, surtout quand on habite dans une grande ville où tout coûte cher. Ces jeunes trentenaires, écrivez-vous, ont subi une tyrannie du diplôme initial, sous-entendu le diplôme est forcément le sésame pour des lendemains qui chantent. Il faut rappeler que les Bac plus 5, vous le dites dans votre livre, c'est à peu près 25% de ces nouvelles générations. Or, écrivez-vous, j'en viens à ma question, rassurez-vous, ces jeunes gens s'aperçoivent qu'ils ont tout bien fait, ils ont fait des études supérieures, mais au final, ils ne gagnent pas forcément beaucoup. Ils galèrent pour se loger, y compris pour s'acheter un logement. C'est d'ailleurs quasiment impossible sans un apport familial. Bref, et la question que je voudrais vous poser, est-ce que les jeunes que vous avez interrogés Roger s'estiment aujourd'hui quelque part lésés, floués. Est-ce qu'ils considèrent qu'ils se sont fait, entre guillemets, arnaquer, que la promesse initiale, diplôme égale sécurité, est fallacieuse?
Est-ce qu'ils se sentent floués? Bon, c'est une question. Je ne sais pas, parce que c'est compliqué. Ils ont un rapport au travail qui n'est pas simple. D'un côté, ils souhaitent évidemment travailler, avoir un travail bien rémunéré, ce qui n'est quand même pas toujours le cas, parce que quand vous avez un bac plus 5, finalement, en moyenne, vous commencez avec un salaire de 2 500 euros par mois, ce qui n'est pas beaucoup. Et si vous avez un diplôme d'une grande école, vous commencez avec un salaire qui tourne autour de 3 000 euros, ce qui est déjà nettement mieux. Et ensuite, le salaire, il évolue pas toujours vraiment à la hausse, il peut stagner pendant pas mal d'années. Donc, de ce point de vue-là, pas mal d'entre eux estiment que les promesses du diplôme ne sont pas tenues. En même temps, comme ils ont pas que l'exigence du salaire ou que l'obsession du salaire, parce que pour eux, le travail, il est associé aussi à d'autres attentes. D'abord, qu'ils soient gratifiant pour eux, qu'il y ait un bon climat de travail dans leur entreprise, que effectivement, parce que vous en parlez tout à l'heure, ils puissent faire du télétravail et dans les postes qu'ils occupent, c'est vrai que c'est possible, pas du télétravail à 100%, mais quand même 1 ou 2 jours par semaine, pour une partie d'entre eux c'est le cas. Que le contenu du travail, le contenu du travail est quand même très important, et notamment il y a quelque chose qui est devenu très central dans la réflexion de ces millennials, c'est le fait que leur travail doit finalement rencontrer une utilité sociale.
Un sens.
Alors, un sens, utilité sociale, c'est plus restreint, parce que ça, il peut y avoir du sens sans utilité sociale, mais c'est quelque chose qui est très important pour eux. Ne pas se sentir dans un poste où finalement vous remplissez juste une activité pour recevoir un salaire. Donc ils sont exigeants à l'égard du travail et pas uniquement en termes de rémunération.
Plus exigeants que les générations précédentes qui les ont précédés donc.
Alors, je cite une étude qui a été réalisée dans les années 80 par un sociologue du CNRS qui disait « Quelle est la vie des cadres ?» Les cadres de l'industrie, leur façon de fonctionner, c'est une optimisation finalement de leurs activités pour avoir une carrière et en même temps une optimisation quand même de leur temps pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, en tout cas assurer leur reproduction sociale. Aujourd'hui, c'est pas du tout aussi linéaire, aussi simple. On admet très bien qu'on bifurque dans sa carrière, qu'on change de secteur. L'objectif n'est pas nécessairement la carrière, même souvent pas, mais plutôt de s'enrichir, de faire un travail, comme je l'ai dit, utile pour la société, d'y trouver finalement des gratifications personnelles. De la même façon, d'ailleurs, ils acceptent facilement de changer de travail. On fait pas, on passe pas toute sa vie dans la même enseigne, dans la même grande entreprise. En tout cas, ça existe encore, ce genre de carrière, mais c'est beaucoup moins fréquent. Et vis-à-vis de l'entreprise, il n'y a pas nécessairement le sentiment d'affection sociétatis, parce que bon, les entreprises se séparent aussi assez facilement de leurs salariés en fonction des cours de bourse ou fonction des
activités économiques
de l'économie, enfin des sursauts de l'économie. Donc leur rapport à l'entreprise est beaucoup plus tiède qu'elle était sans doute il y a une trentaine d'années.
C'est quoi juste leur travail rêvé, si on devait quelque part faire un portrait robot? Vous disiez en effet que ça a du sens, que véritablement il puisse y avoir une utilité sociale. C'est quoi? C'est devenir slasher? Vous citez ce mot des slasher, autrement dit la possibilité de passer sans cesse d'un job à un autre?
Ah non, slasher, c'est plutôt, enfin c'est un terme qui a été utilisé dans les années 2010 pour désigner des personnes effectivement qui font plusieurs activités, mais souvent une activité de prédilection et une activité pour gagner de l'argent. Mmh. C'est une activité finalement uniquement sans contenu particulier, juste pour assurer son quotidien. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils sont slasheurs. Ils sont plutôt ouverts et ils demandent même de la diversité dans leur itinéraire professionnel. Donc, ils demandent aussi de pouvoir s'enrichir dans leur itinéraire professionnel. Et c'est vrai qu'ils souhaitent, ce qui est tout à fait normal, gagner mieux leur vie sur la longue durée. Éventuellement, certains souhaitent obtenir des postes de pouvoir, accéder à des postes de pouvoir, mais en fait c'est pas l'obsession première, ça peut être beaucoup plus de l'ordre qualitatif, par exemple changer de secteur, changer de spécialité, éventuellement s'arrêter un moment pour
voyager,
je sais pas, faire une formation. Enfin, il y a une vision, je dirais, assez pragmatique, mais positive du travail, en ce sens-là, où finalement on peut progresser, s'enrichir, diversifier son point de vue. Et donc c'est aussi, le travail doit pour eux être quelque chose qui leur apporte du point de vue du fond.
Alors j'ai été frappé en lisant votre livre que 70% des répondants déclarent se sentir très vulnérables psychologiquement face à ces temps troublés. Ils, cette génération Z, sont convaincus que l'humanité régresse, et je vous cite, et marche tout droit vers le précipice, notamment du fait de la crise écologique. Alors on pourrait penser qu'il pourrait aller mieux en faisant la fête, et bien non, puisque ces jeunes gens valorisent aussi la solitude ou leur cercle amical réduit. Question toute simple, que faudrait-il pour qu'ils aillent mieux? Leur redonner le moral?
Non, pas du tout. Je pense que pour qu'ils aillent mieux, je pense qu'il faudrait que le monde aille mieux, en fait. Parce que ce sentiment un peu de décompression, cette vive sensibilité, ce côté même un peu écorché vif, il est quand même lié à la succession de crises qui se sont passées depuis 2020. D'abord, évidemment, le Covid, mais aussi l'Ukraine, parce que j'ai fait l'enquête aussi, une enquête sur la question de l'Ukraine. Dans la deuxième enquête, il y avait beaucoup de questions sur l'Ukraine. Ensuite, il y a eu la crise israélo-palestinienne. Ensuite, il y a la crise économique, puis maintenant la crise politique. En cinq ans, ils se sont arrivés, alors qu'ils ont été élevés quand même dans un cadre assez bienveillant, et finalement où la société ne semblait pas devoir accuser autant de problèmes, et où l'avenir ne paraissait pas éventuellement aussi sombre, aussi dramatique. Aujourd'hui, je pense effectivement que les générations d'avant, les choix politiques qui ont été faits, plein d'éléments, les ont mis dans un cadre où il est très difficile pour eux d'être sereins ou optimistes. Et ils l'expriment très bien. Et ils se sentent vulnérables. Alors, vulnérables, pourtant, ils ont des atouts, ils ont des diplômes, ils ont sûrement eu, un cadre bienveillant durant leur éducation, puisque c'est aujourd'hui comme cela que les enfants, et Dieu merci, sont entourés et éduqués. Mais soudainement, ce qui n'était pas vraiment à ce point anticipé, le monde est devenu extrêmement inquiétant. Alors, je rajoute effectivement la première inquiétude, en fait, c'est quand même d'abord l'écologie.
Bien sûr.
Parce que
on y reviendra,
c'est eux qui vont devoir gérer la crise écologique, dans la mesure, bon, on commence évidemment à la gérer, mais bon, elle est très présente dans nos esprits et dans leurs esprits depuis la conférence de Paris, c'est-à-dire une dizaine d'années. Mais finalement, les conséquences du dérèglement climatique, elles vont être bien plus intenses dans 20 ans, 30 ans.
C'est eux qui
à
vont
ce
être
moment-là, c'est eux qui vont devoir se coltiner ce phénomène. Et bon, d'où des réticences vis-à-vis de la vie en général, de ce qui va arriver, l'interrogation, le cas de conscience de faire des enfants.
Bien sûr.
La vie n'est pas facile pour eux. Et alors, d'une certaine façon, on pourrait dire, mais c'est assez compliqué, que les générations d'avant ne leur ont pas vraiment préparé un terrain favorable.
C'est moins qu'on puisse dire.
Mais donc leur avis, c'est que ils auront une vie moins confortable que leurs parents ou leurs grands-parents. Ça, ils l'affirment très nettement, y compris pour des personnes qui sont quand même bien diplômées, dont on pourrait estimer qu'ils vont avoir une carrière facile. Mais ils vivent dans le cocon familial, c'est-à-dire ils sont attachés au cocon familial. Aujourd'hui, la valeur principale, si vous demandez à tous les Français de n'importe quel âge, le secteur dans lequel on a le plus confiance, parce qu'on n'a plus confiance dans rien du tout, à part ça, c'est la famille. Donc, ils sont très attachés à la famille. Alors, je pense que, justement, ceci ne suscite pas vraiment de tension familiale. La critique qu'ils ont, c'est au niveau de la société. Les générations d'avant, ont... Alors, failli est peut-être le terme un peu excessif, mais en tout cas, ne nous ont pas facilité la vie et ont fait un certain nombre d'erreurs, des choix sur plein de plans, des choix politiques, des choix économiques. Par exemple, je prends tout simplement un exemple, dépendre des États-Unis pour assurer la défense de l'Europe, alors qu'aujourd'hui, on se trouve menacé et que rien n'est finalement bien préparé. Bien sûr. Donc, voilà aussi un peu les réflexions que ces millennials peuvent avoir.
Alors, je disais en introduction que c'est une enquête très, évidemment, très fouillée, en France, Allemagne et en partie également États-Unis. Ce que vous décrivez à l'instant, c'est également vrai auprès de la génération Z américaine ou allemande. Première question. Et puis, autre question, cette jeunesse qui perd un petit peu son insouciance, est-ce que c'est pas quelque part catastrophique, triste, que, en effet, ces jeunes gens, dès le départ, aient perdu leur insouciance?
Vous savez, dans l'histoire, il y a beaucoup de moments où la jeunesse a perdu son insouciance. Et, je ne sais pas, dans les années 30, si on peut retourner avant, si vous lisez les grands auteurs du 19e siècle, vous voyez que les sociétés sont perclues de périodes comme ça, un peu dramatiques, et où les individus ne savent pas ce que demain sera fait.
Voire le romantisme.
Mais je pense surtout, en fait, que pour eux, c'était inattendu. Mon point de vue, c'est depuis, disons, l'après-guerre, il y a le sentiment d'une paix durable. Le cadre éducatif, les méthodes éducatives ont beaucoup évolué. C'est-à-dire, l'enfant est vraiment au centre. Et donc, ils ont bénéficié d'un entourage à l'écoute, bienveillant. Et puis aussi, il y avait l'idée que, on était dans un cadre de paix bien construit par les Européens dans les années 50, et que finalement, nos générations à venir allaient en bénéficier. Et c'est finalement, il y a quand même un choc de ce qui est survenu ces dernières années.
80 années après la fin de la Première Guerre mondiale, on pensait que la paix était
presque éternelle.
Et en fait, elle ne l'est pas, quoi.
Elle ne l'est pas. Alors, je réponds aussi un peu à votre première question. En fait, une partie de la seconde grosse enquête a eu lieu aussi en Allemagne. Mais pas aux États-Unis, mais aux États-Unis, je travaille, comme je suis aussi spécialiste du numérique, de la Silicon Valley et tout ça, je travaille toujours un peu en regard de ce qui se passe aux États-Unis. J'écris d'ailleurs beaucoup d'articles là-dessus, sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est un peu les trois points de référence.
Donc, France et Allemagne.
Qui figurent dans mes livres.
Alors, on va marquer une courte pause musicale avec l'écoute d'un morceau que vous avez choisi, Monique Dagneau. Pour dire la vérité, vous m'avez proposé deux morceaux possibles, soit la fantastique pianiste que j'adore, Katia Bunatichvili, géorgienne, soit dans un style très différent, One More Night de Michael Kiwanuka. C'était un choix cornélien pour lequel il m'a fallu trancher, et on écoute ce choix.
I'll be
À l'Ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez, de retour en studio avec Monique Dagneau qui publie Génération Reset aux éditions Odile Jacob. Et on l'a compris, nous venons d'écouter One More Night de Michael Kiwanuka, qui est un chanteur britannique avec la voix fabuleuse que l'on compare fréquemment à Bill Withers ou Otis Redding. Alors, fragilité, on l'a vu, on a via les symptômes évoqués, mais aussi colère, d'où ce désir de faire table rase, de faire un reset en référence à ce mot informatique où l'ordi a planté et on réinitialise le système. Est-ce que cette colère se traduit par un besoin, un regain d'engagement dans la vie associative, dans la vie politique par exemple, et ou par des prises de position décidées, assumées, voire radicales en matière de wokisme, d'anticolonialisme, d'anticonsumérisme, histoire de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière?
Oui, il y a un peu de ça. Dans la mesure où, alors d'abord, ce qui m'a le plus surprise au départ, pour des gens bien diplômés, bien quand même bien insérés dans la société, c'était leur vote.
À
gauche toute. Plutôt, alors pour les hommes, c'est plutôt l'extrême gauche. Pour les femmes, c'est plutôt les partis écologistes. Donc, j'avais fait une enquête 5 ans avant, précisément, sur un peu ce même milieu, les surdiplômés. Et à l'époque, il y avait politiquement un espace pour des positions centristes, centre-gauche, centre-droit, enfin des positions modérées, et notamment avec le macronisme.
Et tout ça, il était balayé.
Ce qui m'a surprise, c'est que, alors, il n'y avait pratiquement plus de personnes qui annonçaient qu'ils votaient habituellement pour le centre, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs. Et ça m'a un peu choquée parce que finalement, pendant toute cette période, c'est un peu le programme de la NUPES qui était en vigueur, qui est un programme radical, tout à fait contre l'économie capitaliste, etc. Bon, donc déjà, pour le moment en tout cas,
c'est un mouvement de colère.
Oui, je pense que c'est un vote. C'est pas nécessaire. Alors, c'est même sûr. Ils ne sont pas en regard d'une société socialiste ou communiste. Je pense qu'ils savent à peine ce que c'est. D'ailleurs, c'est pas vraiment. Mais c'est une expression de colère. Ensuite, il y a effectivement, ils sont très sensibles au wokisme, ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire tout ce qui touche les discriminations de tous ordres, évidemment sociales, mais ethniques, couleur de peau, orientation sexuelle, et ceci infiniment plus que les générations d'avant. Mmh. Et d'ailleurs, je m'interroge aussi sur leur éducation, mmh. puisque l'éducation aujourd'hui, c'est l'éducation au respect d'autrui, mmh. à la tolérance, mmh. et qu'il n'y ait pas d'injustice. Mmh. Et ce qui m'a frappé, c'est la vivacité de leur sensibilité à tout type d'injustice. Mmh. Donc, ce qui aussi renvoie à un vote extrême, mmh. donc plutôt à gauche, parce qu'ils ne votent pas très peu, ils votent très peu à droite. Donc, c'est ce point-là que je trouve frappant et qui, d'ailleurs, a conduit au titre du livre.
Mmh. Génération I7.
Voilà, c'est l'idée de tout réinitialiser, mmh. de repartir sur d'autres bases. Et c'est vrai aussi que dans ce projet de réinitialisation, il y a une critique et un souhait d'un autre modèle de production-consommation. Alors effectivement, la France...
Mais ils l'ont en tête ce modèle en question, ou ils le dessinent, ils savent exactement où ils veulent aller ?
Alors, y a plusieurs points dans ce modèle-là. Il y a d'abord effectivement, chose aussi qui m'a étonnée et presque amusée, c'est le rapport à la nature. C'est-à-dire, quand on leur demande qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, qu'est-ce qui vous rebousse, c'était le terme utilisé. Alors, on propose évidemment plein d'items, les amis, la culture, la famille, tout ce que... le travail, éventuellement le travail. Alors, en fait, de loin, ce qui vient en premier lieu, qui n'était dans mon esprit pas prévu, c'est la nature, le contact avec la nature.
La biodiversité.
C'est-à-dire un univers où l'attention à la biodiversité, l'attention à la sauvegarde de la planète. Ça, c'était, je dois dire, assez inattendu. Et ça rejoint aussi un peu l'idée d'un vote radical. Ensuite, la question de la consommation. Voilà, c'est très important.
L'anticonsumérisme.
J'aime pas trop le terme anti, parce que franchement, ils sont pas non plus, ils veulent pas vivre, d'une économie de subsistance du tout. Ou peut-être, si on a, mais c'est infime, un nombre infime. Donc, ils sont pour un autre modèle de consommation. Je donne un exemple, ce qui m'a beaucoup frappé, mais c'est surtout féminin. Utiliser que des vêtements recyclés. Il y a 60% des femmes qui ont répondu ça. C'est un peu moins... Donc, c'était un peu étonnant. Bon, évidemment, l'impact mis sur les énergies renouvelables, sur... En fait, ils ont un modèle que j'appelle, mais faute peut-être de termes plus adéquats, de déconsommation. C'est-à-dire de ne plus être pris dans ce vertige de la consommation, des marques, dont une partie de la société française, évidemment, auquel la société française plutôt participe largement, puisque la première revendication française, c'est quand même le pouvoir d'achat. Donc, et aussi pouvoir acheter, etc. Eux, ils sont plutôt dans... Alors, ensuite, il faudrait voir exactement ce qu'ils font, mais leur aspiration est un mode de vie plus simple, plus proche de la nature, et alors plus écolo, évidemment.
Ils sont nés avec les réseaux sociaux, en particulier avec Facebook, qui a une vingtaine d'années. Donc, ils sont nés avec le web, les réseaux sociaux, et de l'autre, ces technologies qui n'apportent pas que le meilleur, loin de là. Comment est-ce qu'ils gèrent ce hiatus ? Est-ce qu'ils sont pour autant technophiles ?
Ah, ils ne sont pas du tout technophiles. Enfin, ils sont technophiles parce que la plupart du temps, dans leur travail, ils sont amenés à avoir une grande utilisation des outils numériques et même une utilisation savante. Donc ça, ils sont tout à fait experts en la matière. Deuxièmement, ce sont des millennials. Donc, ils sont nés avec Facebook quand ils avaient 15 ans, en 2010. Ils étaient dans la culture de l'amitié Facebook, de la capacité expressive qu'offraient les réseaux sociaux. Ils offrent toujours, d'ailleurs, les réseaux sociaux, il faut bien le reconnaître.
La promesse...
Mais, oui, une promesse d'un monde plus ouvert, amical, de rencontres de personnes qu'on ne pourrait pas rencontrer dans le monde réel, les communautés affinitaires, comme on disait à l'époque. Donc, de ce point de vue-là, ils ont une bonne expérience, mais ils en sont, je dirais, pour le dire entre guillemets, bien revenus. Ils sont très critiques des réseaux sociaux pour mille raisons. Ils savent détecter les fake news. Ils sont extrêmement méfiants vis-à-vis de la reconnaissance faciale. Ils sont évidemment méfiants vis-à-vis de tout le principe de vérité qui a été mis en cause par ce monde du numérique. Donc, et ils sont par exemple critiques sur l'utilisation qu'en font les plus jeunes aujourd'hui avec TikTok, avec les influenceurs, avec les games et aussi avec donc toutes les logiques d'argent qui sont derrière. Ils sont très critiques. Donc, ils sont à la fois technophiles, pour revenir à votre terme. Bon, ils sont quand même vraiment, ils font une utilisation savante des données numériques, enfin du contexte numérique, mais en même temps, ils sont très critiques, peut-être plus critiques, je dirais, que les personnes plus âgées.
Il y a un chapitre de votre livre qui s'appelle sur la famille, femme, homme, lui c'est lui, moi c'est moi. Vous soulignez nombre de tressaillants de cette génération sur les sujets de l'intime, remise en cause de la binarité biologique, féminisme de combat, le fait d'avoir des enfants perd du terrain, vous l'avez déjà dit, sexualité désacralisée. D'où cette question, est-ce que cette génération Z a aussi envie de faire un reset de la famille telle qu'ils l'ont connue dans leur foyer avec leurs parents quand ils ont été élevés, avec tout ce qu'on a dit précédemment?
Alors, je dirais un peu, oui, d'une certaine façon. Alors d'abord, il y a effectivement la question du cas de conscience de faire des enfants, qui est très présente. En même temps...
Ils n'ont pas envie de faire des enfants par rapport au monde qu'on leur a préparé, quelque part?
Si vous voulez faire des enfants auparavant, notamment dans la société française, qui avait un bon taux de fécondité, c'était quelque chose d'assez naturel.
Une question ne se posait pas, presque.
Qui ne se posait presque pas. Aujourd'hui, ça se pose vraiment comme un cas de conscience. Et d'ailleurs, très franchement, je les comprends. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, alors, il y a aussi un certain goût de la solitude. Alors, plutôt une solitude habitée, et pas une solitude abyssale, une solitude... Bon, on a quand même des amis. Mais, par exemple, on leur posait la question, qu'est-ce que c'est pour vous le week-end idéal? Ces trentenaires, on leur proposait plusieurs possibilités. L'idée de passer le week-end au lit avec sa copine ou son copain, ou l'idée de faire des voyages, tout ça. Non, le week-end idéal, c'est plutôt un week-end cocooning.
Casanier,
oui, qui était aussi une surprise pour l'âge qu'ils ont, évidemment. Et donc, alors, pour revenir à la famille, oui, il y a ce goût de la solitude. En même temps, ils ont quand même... Ils valorisent la famille. Ils sont, comme je l'ai dit, très portés par l'idéal familial. Donc, je ne serais pas à ce point pessimiste sur l'avenir qu'ils vont avoir en tant que couple et comme parents éventuels.
Un tout dernier mot, puisque le temps file sur l'Europe. Ces jeunes Français et Allemands semblent très attachés à l'Europe, en particulier à ses valeurs et à son modèle social et culturel. C'est sans doute aussi peut-être, et j'attends aussi votre confirmation, l'effet Erasmus, dont nous fêtons les 40 ans de ce programme d'échange interculturel. Double question pour finir, à quoi tient l'attachement européen de ces jeunes? Première question. Et puis, serait-il prêt à défendre ce continent si la situation géopolitique devait dégénérer?
Alors, sur la première question, c'est évident, ils tiennent à l'Europe en raison du cadre de valeurs que l'Europe offre.
Humaniste, social.
L'humanisme, l'attention à l'autre, la démocratie. Et la démocratie, c'est extrêmement important. Ils sont européens. D'ailleurs, ils sont plus européens, je dirais, qu'attachés à leur identité nationale. C'est aussi ce qui était frappant. Et en plus, une des enquêtes s'est déroulée quelques semaines après le début de la guerre d'Ukraine. Et ils étaient tous pour soutenir l'Ukraine, pour envoyer des armes à l'Ukraine, pour que la France reçoive des Ukrainiens. Donc, je dirais qu'ils sont un soutien, pour mille raisons en particulier, leur éducation à l'idéal européen.
Et puis l'autre question, si la situation géopolitique devait dégénérer, est-ce qu'ils seraient prêts à faire un pas supplémentaire?
C'est une bonne question sur laquelle on va rester un peu évasif. En même temps, j'ai été surprise effectivement par leur caractère européen et aussi le côté un peu aussi anti-américain. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que ce n'est pas du côté de l'Amérique qu'on va trouver un salut. Donc, d'une certaine façon, ils vont, de gré ou de force, être quand même tenus de faire face à la menace qui pèse sur l'Europe.
Merci beaucoup Monique Dagneau d'être venue à ce micro pour cette 62e émission de Complètement à l'Ouest. Je rappelle que vous avez publié Génération Reset aux éditions Odile Jacob. C'est vraiment passionnant pour qui veut comprendre. On l'a bien compris, on l'a bien senti aujourd'hui, ces jeunes trentenaires qui, sous peu, seront aux manettes de la vie économique et politique de notre pays, de nos pays. Une fois encore, je vous recommande chaudement de lire Génération Reset. C'est un véritable bain de jouvence. En tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu, moi, le boomer aux commandes de cette émission. Vous le savez, et vous vous en doutez, Complètement à l'Ouest reviendra le mois prochain, pour la 63e émission. Nous parlerons d'un tout autre sujet, puisque nous parlerons musique, et plus particulièrement opéra. Et fidèle à l'usage, je veux bien sûr remercier l'équipe technique, qui est discrète, silencieuse, invisible, mais absolument indispensable à nos émissions. Voilà, tout est à présent dit, et selon la formule consacrée, il ne nous reste plus qu'à garder le cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.